Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les studios de Mon Paris FM dans votre émission en direct du 13. Alors aujourd'hui, on va un petit peu modifier l'ordre de notre émission parce qu'on a quelqu'un qui est dans le studio qui tient une permanence. Donc du coup, l'association, on va tout de suite en parler. Je voudrais juste quand même saluer au passage Jézem qui est derrière les manettes là-bas, comme d'habitude, à la réalisation. Et puis Monsieur Théo qui viendra certainement nous rejoindre en cours d'émission et faire sa rubrique. Et nous parler, je crois, des Oscars et nous proposer son émission. Personnellement, moi, ma rubrique portera aujourd'hui sur les abstentions, mais on y reviendra dans le courant de l'émission. Ici, on a donc présent Renel, bonjour.
Bonjour.
Enchanté de vous recevoir.
Eh bien, merci pour
l'invitation. De te recevoir, on a dit qu'on allait se tutoyer, donc on va se forcer.
Effectivement.
À vrai dire, on ne se connaît pas trop, c'est la première fois qu'on se voit.
Effectivement.
Voilà, donc on s'est croisés dans les couloirs de Paris au dîner, mais on se connaît pas, ça va être l'occasion jamais de se connaître. En fait, je voulais juste te dire que on va lancer le jingle. J'ai oublié le jingle. Voyons, mais nous les ignorons. Nous ne supportons pas leur détresse, mais nous ne savons pas comment agir. Eux, ce sont les personnes sans papier, les familles qui couchent dehors, les jeunes qui se marginalisent, loin de chez eux ou proches de chez eux. Tous ceux qui n'ont pas de couverture sociale et médicale, mais pas seulement. Oui, dans nos rues, notre quartier, notre ville, il y a des personnes qui souffrent, faute d'aide, d'entraide. Heureusement, il y a des personnes motivées au grand cœur qui se sont regroupées dans des associations comme celle que nous recevons aujourd'hui. J'ai le très grand honneur de recevoir aujourd'hui M. Renel Fièvre, représentant l'association Rencontre des Intersections, appelée autrement RDSI. Renel, rebonjour.
Bonjour Daniel, merci pour cette invitation et merci aussi au Centre Odiné de nous accueillir dans ces locaux pour pouvoir répondre en fait à des besoins que vous avez dont vous avez parlé d'ailleurs dans votre présentation, besoin de ces personnes qui ont tant besoin d'aide.
Ok, alors quand on dit personnes qui ont besoin d'aide, est-ce que c'est simplement des gens qui sont sans papier ou est-ce qu'on a une population plus large? On a une population d'habitants du quartier qui ont leurs papiers, qui même ont leur logement, mais qui ont du mal ou à s'en sortir sur un plan administratif ou médical ou... Quel est le type de population que vous touchez?
Alors en fait, l'association est ouverte à tout public, pas seulement des personnes qui n'ont pas de papier, enfin je pense que tous les gens ont un papier quelque part, mais qui n'ont pas de carte de séjour, ou si vous voulez, et qui sont en situation irrégulière. Il n'y a pas que des personnes en situation irrégulière, mais des personnes qui peuvent venir du quartier, qui peuvent venir du 14e arrondissement de Paris, qui peuvent venir du 19e arrondissement de Paris. En fait, qui viennent un peu partout et avec des problématiques très, très, très différentes.
C'est-à-dire?
Ça veut dire, en fait, il y a des personnes qui ont besoin d'aide pour lire un courrier, tout simplement, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas lire, hein, vous savez. Il y a des personnes qui ont de très gros téléphones entre leurs mains, mais ils reçoivent, par exemple, des convocations, mais ils ont laissé passer les dates parce qu'ils n'ont pas répondu à temps. Et c'est pas forcément des gens qui n'ont pas de papier, hein, c'est des gens qui ont des papiers aussi. Il y a des gens qui savent pas, par exemple, comment faire un bon CV et une lettre de motivation et qui ont des papiers. Il y a des gens qui n'ont pas de papier, comme vous dites, mais je préférerais dire qui sont en situation irrégulière et qui se sentent seuls et qui ont besoin d'un appui, d'un accompagnement pour introduire une demande de séjour, qui ont besoin d'avoir dans un premier temps une domiciliation. Nous, nous ne faisons pas de domiciliation. Nous orientons vers des organismes agréés qui délivrent des domiciliations, et ces domiciliations-là permettent, en fait, cette domiciliation, pardon, permet, si vous voulez, à ces personnes ou cette personne de commencer, d'entamer ces démarches administratives. Ça veut dire ouvrir un compte bancaire. Bon, depuis le 1er janvier, ils ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire, c'est une nouvelle loi. Et avec la domiciliation sans fiche de paye, quelqu'un peut se porter garant pour eux s'ils en ont. Le plus souvent, il y en a qui n'ont personne. Donc à ce moment-là, ils ouvrent un compte nickel ou bien ils ouvrent un compte, je ne fais pas de la pub pour
non,
que ce soit,
bon,
voilà, qui est plus facile, où ils accèdent plus facilement, ou à la poste, un livret A.
D'accord. Ça veut donc dire qu'en fait, vous êtes ce qu'on appelle le premier de cordée, c'est-à-dire que vous êtes le premier à détecter des gens, à avoir des rendez-vous avec eux, et puis à voir si effectivement vous pouvez les aider directement ou les orienter vers un organisme plus technique ou plus administratif.
Oh, je ne sais pas si on est ce qu'on pourrait appeler le premier de cordée, mais les gens viennent vers nous parce qu'il y a une relation qui s'instaure et de confiance et qui permet en fait que... ils se disent que là, ils peuvent venir à des permanences où ils sont bien accueillis, où ils sont considérés. Et puis à partir de là, nous, nous installons dans cette rencontre, en fait, on installe une forme de dialogue, de confiance, de suivi social régulier pour certains et pour d'autres moins. Et jusqu'à ce qu'on puisse en fait trouver, dénouer sa situation ou leur situation. Et après, si nous ne pouvons pas répondre à une problématique parce que ça ne répond pas à nos compétences, bien évidemment, nous les orientons vers des organismes qui puissent y répondre.
Répondre à leur attente. Ça veut donc dire que vous avez un certain nombre de bénévoles qui sont spécialisés, ou vous avez des bénévoles qui sont des habitants qui viennent vous entraider. À quel niveau jusqu'à quel niveau vous pouvez intervenir, avec quelle spécialité, avec quel bénévole?
Alors, nous travaillons avec une travail social, bénévole. Moi, je suis accompagnement social, éducatif et culturel aussi. Je ne vais pas parler de moi parce que ce n'est pas forcément le but.
Non, mais c'est un exemple qui n'est pas mauvais.
Oui,
hein.
Voilà. J'ai fait des études en animation socio-éducative et culturelle, développement de projets, territoire et réseau, où mon rôle, j'ai toujours eu à cœur. Je pense qu'en fait, mon engagement aussi vient de... C'est comme un cri, en fait, qui était nécessaire, très jeune.
C'est-à-dire, allez, vas-y, ça m'intéresse, vas-y.
Oh, vous savez, je ne suis pas là pour parler d'origine, pour parler de parcours. Forcément, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ces gens. Mais j'ai commencé très jeune dans le social, le socio-éducatif et culturel. Je ne veux pas qu'on les sépare en disant social, éducatif, culturel, mais j'aime bien dire social, éducatif et culturel quand même, parce que des fois on dit socio-éducatif et puis ça semble être un bloc qui n'a pas trop de sens. Et eh bien, j'étais engagé, pas militant. J'ai rien contre le militantisme, mais j'ai été engagé très jeune, j'ai eu cette chance de faire des rencontres. C'est pour ça que cette association, j'aime beaucoup le nom que les initiateurs ont décidé de choisir, la rencontre.
Vous nous rappelez
des
le nom exact?
Alors, l'association s'appelle Rencontre des intersections. Donc, une rencontre avec celui-ci, avec celle-là, avec l'autre. Et donc, ça crée en fait plein d'intersection. Des fois, on se dit on veut aller là, et puis finalement il y a l'autre qui nous dit, mais écoute, pourquoi on ne va pas là de préférence. En fait, c'est ça le jeu qui est très intéressant et que nous essayons en fait au quotidien de vivre nous-mêmes et de faire vivre aussi aux autres dans notre démarche d'accompagnement. Et pour revenir à ce que je disais par rapport à ce cri, mon engagement qui est comme un cri, c'est, j'ai commencé à travailler en Haïti très jeune. J'ai eu la chance, à 16 ans, de faire une rencontre formidable avec une femme extraordinaire qui était partie en exil, sous Duvalier, et qui est revenue au pays. Alors, il y avait plein de gens qui sont revenus comme ça, avec des projets, plein
Duvalier,
la tête.
Duvalier, juste pour nos auditeurs, on rappelle qu'Haïti était un pays quand même très dictatorial, avec un mec un peu fou.
Tout à fait.
Un peu fou,
assoiffé de sang.
Assoiffé de sang, oui. Et qui a mis Haïti à genoux. Et même carrément en ventre à terre. Et, et ce qui se passe actuellement en Haïti est la suite logique, malheureusement, de ce qui se passait à cette époque-là.
Oui, mais pas que lui. Je pense que nous avons, chacun haïtien, une responsabilité. Ça aussi, il faut que nous l'acceptons et que nous l'assumons aussi dans ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, la question, ce n'est pas d'accuser, la question, c'est comment on fait tous ensemble pour sortir de ça et puis apporter aussi de l'espérance, en fait, à ce qui... Parce qu'on a besoin d'espérance. Je pense que chaque jour, on a besoin d'espérance.
Et donc, cette espérance et cette dame qui te l'a donnée...
Eh bien, elle m'a...
J'ai voulu faire permis, du...
j'ai voulu
permis...
faire... Oui, vas-y. Pardon, j'ai voulu faire du théâtre. Et puis, il y a un comédien que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Daniel Marcelin. Parce que quand j'étais très jeune... Et donc, du coup, mes parents ont voulu que je fasse du théâtre avec Daniel. Et Daniel nous a orientés, parce que j'étais jeune, elle voulait que je sois vraiment avec une personne et qui est responsable et qui est professionnelle aussi, qui s'appelle Paula Clermont-Payant, et qui a fondé un centre culturel avec d'autres personnes hein, qu'elle avait rencontrées à l'étranger, qui étaient engagées. Et pour revenir en Haïti, apporter des projets éducatifs, culturels, et dont le centre s'appelle Pieds Poudrés. Donc Pieds Poudrés, les pieds sont poudrés par la poussière à force de marcher, d'aller chercher les gens. Donc c'est un très très bon nom. Et puis elle m'a initié au livre. En fait, j'ai été scolarisé, j'ai fait des études, mais c'est cet engagement-là. Il y avait un petit fond de livres. Et dans un bureau du fond, qui était le bureau d'un journaliste qui s'appelle Emmanuel-Pierre-Antoine, qui vit au Canada maintenant, qui travaillait avec Jean-Dominique, qui a été assassiné d'ailleurs, sur un des gouvernements après Duvalier. Et que ce fond de livre-là, on l'a mis à la disposition des personnes, des gens qui étaient membres de Pieds Poudrés, qui étaient comme un centre culturel sous forme d'association, pour qu'ils mettent en place des petits clubs de lecture dans leur communauté. Et puis, moi, j'ai commencé à animer un club de lecture avec des jeunes. Et puis, ça a pris une ampleur formidable. Et ça a débouché sur une formation en bibliothéconomie. Et j'ai travaillé sur un projet de faire lire, de lecture publique, pour faire de la formation sur... la lecture et autour de la lecture pour des personnes qui travaillent sur des projets en milieu rural. Et j'ai travaillé après dans la dynamique de groupe pour que ces projets puissent se maintenir en fait par l'animation culturelle sur ces territoires.
Ok, donc ça veut dire que tout ça, ça t'a permis d'avoir quand même un fond intellectuel, social et culturel te permettant d'intervenir en France. Donc je pense que tu es revenu en France. Alors ça fait combien de temps que tu es revenu en France?
Ah ben, je suis arrivé en France fin 2002.
Fin 2002. Et donc depuis 2002, tu es dans cette association RDSI ou c'est venu après?
Alors Rencontre, l'association Rencontre a commencé très longtemps. Enfin ça c'est une refonte si vous voulez. L'association Rencontre a commencé en 1995 avec un nom créole. Rencontre, c'est toujours Rencontre, mais R-A-N-K-O-N-T, qui veut dire rencontre et rencontre. Donc maintenant, quand je suis arrivé en France, je suis arrivé pour faire des études. Et puis je devais retourner, puisque je travaille dans une université en Haïti, l'université Kiskeya, que tout le monde connaît, en tant que responsable des affaires étudiantes et responsable des affaires culturelles. Donc avec l'obligation de retourner, bien évidemment, mettre les compétences acquises au service du pays. Et donc la situation politique n'a pas pu permettre que je reste. Je suis retourné, bien évidemment, que je reste. Donc je pense qu'à l'époque, c'était tellement difficile. Même les parents qui, par tradition, disent « il faut rester au pays, il faut rester au pays, il faut surtout pas ». Et avec tous les bagages qu'on a, ou bien toutes ces envies qu'on a de faire, il faut venir... contribuer au développement du pays. Mais à l'époque, c'était déchirant d'entendre le recteur de l'université où je travaillais qui me disait avec... Et en regardant son visage, c'était blême. Il disait, mais moi aussi, je pouvais partir, je partirais. Parce que là où on était, l'université, là où on était, on caillassait tous les jours les étudiants. Parce qu'on les catégorisait comme étant des petits bourgeois, puisque c'était une université privée, etc. Bon, on ne rentre pas dans tout ça. Mais c'est déchirant et c'est pour cela que je pense que le travail avec toutes ces personnes, qu'ils soient des personnes en situation irrégulière, sans papier, avec papier, soit des gens du quartier ou d'ailleurs, et qui ont besoin d'aide, de pouvoir le faire, parce qu'en fait, on a vécu tout cela et dans sa chair. Et puis, on sait aussi que des fois, il y a des personnes qui partent, par exemple... qu'ils soient français ou canadiens ou qu'ils soient africains, haïtiens, peu importe, et qui laissent leur terre natale Et c'est, même s'ils arrivent en fait à changer leur situation pécuniaire, si vous voulez avoir une vie sociale, mais il y a une sorte de déchirement intérieur qui restera toujours.
Qui reste à vie, oui.
Je pense, oui. Et je pense que quand on est porté par ça, et on ne peut, on n'a pas le choix. Moi, je pense que ça a été une nécessité, sans folklore, hein, je le dis, c'est une nécessité, c'était ça ou rien d'autre. Et tandis que quand je suis arrivé faire des études, je fais des études dans une très grande école, et parce que j'ai voulu ouvrir mon truc en Haïti, parce que je sentais, j'avais besoin de quelque chose, je voulais ouvrir un truc pour les jeunes, au niveau de la culture, de la mode, de... j'ai fait l'école Marbeuf, et sur les champs, et puis j'ai voulu en fait apporter ça. Et puis plus tard, bon, j'ai travaillé, je ne vais pas citer des noms, j'ai travaillé pour une très grande enseigne de luxe, et pendant 10 ans, c'est très curieux. Et puis après, j'ai travaillé, j'ai pas fait une reconversion, mais j'ai fait une bilan de compétences pour pouvoir faire, avoir une orientation. Je voulais faire une DEPRA, qui est un développement des pratiques artistiques et culturelles à la Sorbonne. Donc, mon orientation m'a plutôt conduit vers un DGEPS, Territoire Développement Réseau. Donc, développement de projet Territoire Réseau. Et puis, j'ai travaillé avec des jeunes pour une collectivité. J'ai travaillé avec leurs familles. J'ai travaillé avec des équipes que j'ai managées. Je suis toujours dans l'ouverture.
Okay. Est-ce que ça veut dire que si demain il y avait un autre gouvernement, une autre vie possible en Haïti, tu resterais quand même en France maintenant ou tu préférerais partir?
En fait,
c'est une question très personnelle, ça, mais c'est intéressant pour nos auditeurs.
En fait, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Mais je vous le dis parce que vous me posez la question. En fait, je ne me suis jamais senti pas français. C'est curieux. Et quand j'ai... Pour passer un concours, j'ai voulu passer un concours, j'ai demandé la nationalité française. Parce qu'en fait, j'avais une carte de 10 ans. Et quand je suis arrivé étudiant, d'ailleurs...
Mais j'étais
étudiant.
Le parcours normal.
J'ai un parcours normal, voilà.
Voilà, petite carte, grande carte.
Voilà, enfin, je suis arrivé avec un visa d'étudiant, avec plein de recommandations du ministère de la Culture, etc. Tout et tout. Et j'ai eu mon parcours normal. Et puis, j'ai eu, après une carte de 10 ans, mais je n'ai pas senti de nécessité de prendre une nationalité. Mais comme je suis une personne qui est engagée, j'écoute beaucoup d'actualités, j'avais besoin de voter. Voilà, déjà. Ce n'était même pas une question de concours de la fonction publique, c'est une question de vouloir participer dans cette...
Participer à la vie démocratique, du pays qui t'a accueilli.
Et je n'avais pas envie de voter par... plaisir comme ça, je vote, je mets un bulletin. Non, c'est parce qu'en fait, j'avais, c'est pas de la colère, mais je me disais, mais non, c'est pas possible. Et puis, ben voilà. Donc, c'est parti comme ça. Et puis après, c'est parti. Et ça a continué avec la question de ma vie professionnelle. Et pour m'engager aussi dans la fonction publique. Après, je suis... j'ai passé mon entretien, c'est ça que je voulais surtout pas dire et dire en même temps, puisque vous avez posé la question, avec un agent du ministère de l'Intérieur qui m'a dit mais vous n'avez pas d'accent, vous parlez très bien, vous êtes né ici, on dirait que vous êtes né ici, tout et tout. Je dis, mais non, je ne suis pas né ici, j'ai toujours vécu en Haïti, j'étais scolarisé en Haïti, tout et tout. Mais... je ne me suis jamais posé la question que je n'étais pas français, parce que je me suis toujours senti français. Je ne sais pas si c'est par rapport à notre histoire coloniale, parce que moi, je ne le vis pas comme une sorte de traumatisme, de quoi que ce soit. Parce qu'il y a des familles, ce que beaucoup de gens ne savent pas, en Haïti, dont la mienne, qui n'est pas une famille aisée, très aisée, même des familles de classe moyenne, mais ils gardent toutes les vieilles habitudes de l'ancienne France, de la vieille France, parce que quand vous amenez des camarades chez vous, les parents surveillent pour voir est-ce que c'est la bonne cuillère, est-ce que c'est la bonne fourchette, est-ce que la nappe, etc. est bien mise, etc. tout et tout. Donc, et puis, nous faisons très attention aussi à apprendre le français, à parler, la grammaire, l'orthographe, les dictées, etc. Toute mon enfance est... Et tourner vers ça a été ça, mon cheminement. Ça veut dire, en fait, je ne me suis jamais posé la question si je n'étais pas français ou pas. Et pour répondre à la réelle question qui est, est-ce que je resterai en France s'il y a un changement de gouvernement
Oui, ma question n'était pas de savoir si tu te sentais français ou pas. Hein.
Bien évidemment.
Ma question était juste de savoir si oui. tu avais envie, si tu avais une envie oui, de oui. retourner dans le pays dans lequel tu as, oui, tu as passé tes premières années, en fait. C'est ça l'idée.
Oui, en fait, pourquoi j'ai commencé par là, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, je partage en fait ma vie entre ces deux pays. Je n'ai pas dit deux îles parce que la France n'est pas une île, mais ces deux pays, quoi. Parce qu'en fait, c'est comme quand je pars en vacances, j'ai besoin de ça. Chez moi, j'ai besoin d'y aller, et puis à un certain moment, j'ai besoin de retourner chez moi. Et des fois, je me dis, mais chez toi, mais non, chez moi, c'est en France. D'accord. Et vous voyez ce que je vous dis ? Donc, voilà. Donc, je pense que non, et puis l'avenir terminera. C'est souvent l'avenir qui détermine, en fait, en fonction de l'engagement qu'on aura sur le terrain.
Oui, puis tu vas voir, avec l'âge, on a les idées qui évoluent aussi.
Tout à fait, effectivement, oui, aussi. Mais c'est un pays que j'aime beaucoup, la France, et sinon je n'y serais pas, hein, parce que je ne fais pas les choses de manière comme ça, volatile. Je fais les choses parce qu'en fait, il y a du sens pour moi. Et être ici aujourd'hui a du sens pour moi.
D'accord. Écoute, tu sais ce que je vais te proposer, puisque là, on a eu quand même une première partie d'émission très personnelle. On va passer la chanson que tu nous as proposée, on va voir pourquoi. Et après, on reviendra et on ne parlera que de l'association à ce moment-là. On parlera de ce que peut apporter l'association aux habitants du 13e arrondissement. Mais merci d'avoir ouvert ton cœur, merci de t'être ouvert. C'était passionnant et j'ai appris plein de choses en t'écoutant et j'ai eu plein d'émotions. Donc, tu as choisi une chanson. Est-ce que tu peux nous donner le nom de la chanteuse, le titre, et puis pourquoi tu as choisi cette chanson ?
Alors, j'ai choisi une chanson de Martha Jean-Claude qui est titrée Marassa Eliou.
C'est donc, qui Martha Jean-Claude ?
Martha Jean-Claude, c'est une chanteuse populaire haïtienne qui est décédée, je ne dirais pas malheureusement, ça fait partie de la vie, qui est décédée et qui a été une militante des droits sociaux et qui a été même emprisonnée à une époque sous le président Magloire, un président en Haïti haïtien, et pour avoir oser construire des logements pour des démunis. Et après s'être sortie de prison, elle est partie vivre à Cuba, où elle est restée en exil pendant plus de 30 ans. Elle est revenue au pays après 30 années.
D'accord.
Donc c'est une chanson très très forte. J'ai choisi cette chanson parce qu'elle est très très forte. Elle me touche beaucoup. Et puis elle est en corrélation aussi à ce qu'on fait. Parce que le logo déjà de l'association, c'est le logo de Marassa. Des lois Marassa, qui sont des divinités des enfants défunts, qui font le lien entre les vivants et les morts, et qui sont dotés de puissance protectrice. Enfin, c'est dans la mythologie vaudou en Haïti, donc qui vous aide à la prospérité, qui vous amène vers la prospérité, à la chance, et voilà. Donc, et notre logo, c'est le logo de Marassa, et la chanson est titrée Marassa et Lou. Donc, c'est en corrélation à ce qu'on fait. Et puis, Martha Jean-Claude aussi, et par rapport à son travail, je pense que c'est un réel plaisir de choisir cette chanson-là.
Ok. Alors, juste à l'intention de nos auditeurs, vous allez entendre, c'est un enregistrement qui vient d'un 33 tours. Donc, au début, ça craque un peu. Mais nous, on aime bien ici. On aime bien parce que c'est réel. C'est réellement la vie du disque, du vinyle. Et ça, franchement, dans les studios de Montparnasse FM, on aime ça. On écoute la chanson et on se retrouve juste après. Bye. De retour dans les studios de Mon Paris FM avec Ronel qui a vécu cette chanson. Je peux vous dire, il avait les yeux fermés, il écoutait. Moi, pour l'avoir écouté plusieurs fois, c'est vrai que c'est une chanson qui prend aux tripes hein, quand on sait un peu à quoi ça correspond, puisque tu m'avais expliqué un petit peu ça. C'est vrai que c'est une chanson qui n'est pas neutre, qui n'est pas neutre du tout. Ronel, on va donc maintenant revenir à l'association. Et moi, ce que je voudrais savoir un petit peu, c'est est-ce que vous vous ouvrez aussi vers tout ce qui est accompagnement médical ? Est-ce que quand une personne arrive et n'a pas la CMU, la CMU, c'est donc le fait de pouvoir soigner gratuitement parce qu'on n'a pas les moyens, est-ce que vous orientez vers un centre ? Est-ce que vous, il y a des dossiers à remplir que vous aidez ? Comment ça se passe ?
Alors, l'association, en fait, grâce au centre Houdini, maintenant, depuis 2 semaines, met en place des permanences 3 fois par semaine. C'est-à-dire que les permanences le mardi de 10h à 16h, le mercredi de 10h à 15h30 et le samedi de 15h à 18h. Dans ces permanences, en fait, nous sommes à chaque fois en binôme différent et nous assistons les personnes pour constituer un dossier de demande d'aide médicale, hein, des personnes qui arrivent, des primo-arrivants qui... ont pu avoir une domiciliation ou un hébergement d'un ami. Donc, nous, une fois que la personne a 3 mois sur le territoire, nous l'aidons en fait à constituer une demande demande d'aide médicale.
D'accord. Et pour avoir l'aide médicale, il faut 3 mois de présence sur le territoire.
Oui, tout à fait.
À une adresse continue. À une adresse connue ou c'est comment ça se passe ?
Alors, pas 3 mois sur le territoire, 3 mois avec une adresse continue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est 3 mois sur le territoire. Si par exemple la personne est arrivée 1 mois chez quelqu'un, après la personne déménage chez quelqu'un d'autre, en fait, il faut 3 mois continus, de présence continue sur le territoire, avec un hébergement.
D'accord.
Voilà. Et donc, et une fois que cette personne obtient aussi sa carte d'aide médicale, AME, donc la personne aussi revient vers nous pour qu'on les aide, pas tous, il y en a qui parviennent à le faire tout seul, mais il y en a beaucoup qui reviennent pour qu'on les aide aussi à avoir la réduction transport sur leur carte Navigo, puisque en fait, lorsqu'on a l'AME ou la CMU, que ça ouvre des droits en fait, à une réduction pour le pass Navigo. Donc de 50%.
Du coup, c'est un pass Navigo qui est gratuit ou qui est...
Non, c'est un pass Navigo.
Il y a une réduction ?
Au tarif normal, sauf qu'il y a une réduction qui leur est octroyée parce qu'ils ont obtenu l'aide médicale ou la CMUC qui est souvent dans le cadre de demande d'asile, ou bien la CMUC obtenue dans le cadre de demande d'asile, l'aide médicale non. Il faut être en situation irrégulière. Et la CMUC aussi, donc, qu'on appelait la CMUC qui est maintenant la C2S, complémentaire santé solidaire, est aussi octroyée à des personnes qui ont des faibles ressources, comme par exemple les gens qui sont à RSA. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas seulement des personnes qui sont... en situation irrégulière. Et puis, il y a aussi toute une organisation qui est mise en place autour de sorties culturelles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ici depuis très très longtemps et ils ne sont jamais allés dans un musée, par exemple. Ils ne sont jamais sortis. Ils passent devant des parcs parisiens, mais ils ne connaissent pas. Ils ne sont jamais posés. pour profiter, parce que c'est très agréable. On a fait des sorties avec les gens, des pique-niques, des goûters.
Juste ah oui, carrément. C'est-à-dire que vous organisez même des pique-niques,
ah oui, des repas partagés,
des journées entières. Alors,
ah oui, oui, des repas partagés où chacun apporte une spécialité de leur pays. Et puis, on a du djembé, de la guitare. Et on fait
de musique. Me prévenir, je vais venir, moi.
Ben, oui, on va vous inviter. Et puis, les gens passent un très bon moment. Et après, en fin de journée, ceux qui sont restés, parce qu'il y en a qui partent aussi, parce qu'ils ont des enfants, ils ont des obligations, mais le groupe qui part, qui reste, on fait un débriefing, comment ils se sont sentis pendant la journée. Et c'est très intéressant d'entendre, en fait, qu'il y a des gens qui sont logés par les 115, qui sont dans des petits hébergements, heureusement qu'il y a ça d'ailleurs,
bien sûr.
Et qui sont dans des hébergements et qui étouffent et qui ont besoin de ces moments-là, en fait, pour pouvoir respirer, pour pouvoir rencontrer l'autre. Et ça leur permet, en fait, ces sorties leur permettent, en fait, de rencontrer l'autre et puis de pousser des portes qui pensaient être inaccessibles pour eux.
Il y a une petite chose, quand même, qui m'intrigue au passage. Tu as dit qu'il y en a qui vont rejoindre leurs enfants parce qu'ils viennent dans la journée. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui sont avec des enfants qui sont scolarisés, les enfants restent allés dans l'appart. Comment ça se passe? C'est un monde que je connais très mal. Donc, c'est pour ça que je pose ces questions un peu basiques, mais c'est un monde que je connais très, très mal.
Alors, il y a des personnes qui ont des enfants. Il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants. Il y a des personnes qui ont des enfants, par exemple, quand ils vont entreprendre une démarche administrative. Et si c'est des jours d'école, les enfants sont à l'école. Et si les enfants ne sont pas à l'école, soit mercredi ou un week-end, ben ils font garder, parce qu'en fait, il y a une belle solidarité aussi qui s'installe entre ces personnes qui se connaissent aussi. Hein. Parce qu'il y a... Et puis, les enfants appellent des copines de leurs parents, des tatas, des tontons, et parce qu'en fait, ils les gardent pour que les parents puissent... Parce qu'on avait mis en place aussi des groupes de parole dans une association d'un 14e. En fait, les groupes de parole, ça permet en fait... aux gens de libérer la parole, de dire en fait, d'expliquer leur parcours d'intégration, ce qu'ils vivent au quotidien, pas seulement leurs souffrances, mais aussi ce qu'ils vivent de beau, de bien aussi, et dans cette France qui les accueille, qui les a accueillis. Donc, et dans ces groupes de parole, en fait, des fois on reçoit des enfants uniquement. Groupe de parole enfants spécifique aux enfants, groupe de parole sur la parentalité avec parents-enfants. Des fois, avec juste les enfants, parce qu'il y a des sujets qui sont abordés avec un psychologue. On travaille avec un psychologue en partenariat avec un psychologue d'un CFA qui s'appelle Archimède, un centre de formation pour adultes, et qui s'appelle François Yétou, qui est un type formidable et qui est bénévole pour l'association et qui a mis en place un partenariat avec Archimède avec nous et qui, selon les thématiques, peut venir conduire un groupe de parole pour ces familles.
Et ça veut donc dire qu'autour de vous, il y a donc un psychologue, mais il y a aussi des assistantes sociales, il y a des médecins.
Accompagnants sociaux. Pas de médecins, mais on pense à l'avenir. Peut-être vous allez peut-être poser la question sur l'avenir et ouvrir des partenariats ou bien que les gens aussi nous accordent, nous donnent cette possibilité-là de pouvoir travailler avec eux. Mais on fait de l'orientation. On n'a pas de médecins qui interviennent à nos permanences, on n'a pas de médecins qui interviennent directement dans notre relation de tous les jours avec les gens, mais des orientations, parce qu'il y a le PASS qui existe, ça veut dire une des associations d'accompagnement social et d'accès aux droits, peuvent orienter vers le PASS. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de couverture sociale du tout.
C'est quoi le PASS?
En fait, le PASS, en fait, c'est un ticket qui permet en fait de se soigner à la journée ou pendant 2 jours ou pendant 3 jours,
par exemple,
qui est gratuit.
Vous pouvez envoyer des gens vers le centre Edison, qui est un centre municipal. Vous connaissez ou pas? Vous travaillez avec eux?
Non, on ne travaille pas avec le centre Edison. D'accord. On envoie vers l'Hôtel Dieu, des fois. On envoie aussi vers la salle Pétrière. Et puis l'hôpital Bichat aussi. Les personnes, on leur fait des orientations. S'ils n'ont pas de couverture sociale du tout, ils pourront... se soigner ou bien voir un médecin. Et puis après, ils peuvent voir l'assistante sociale qui peuvent faire une demande d'aide médicale d'urgence. Puisque nous, on aide en fait à remplir un dossier d'aide médicale, mais l'aide médicale d'urgence, c'est que l'hôpital qui peut aussi agir sur ça pour que ça aille un petit peu plus vite en fonction de la pathologie et de l'état de santé de la personne.
D'accord. De la même façon que vous pouvez renvoyer des gens vers des centres spécialisés pour la santé, est-ce que vous avez cette même approche concernant le droit? Est-ce que vous avez travaillé avec la maison des droits du 13e arrondissement ou comment ça marche?
Alors, c'est une très bonne question parce que nous orientons vers les points d'accès au droit. Nous avons l'habitude d'orienter vers les points d'accès au droit, des permanences, et vers les bus solidarité aussi, que vous connaissez probablement. Oui. Et puis, récemment, nous avions envoyé un courrier au directeur de la maison associative du 13e et pour demander de nous accueillir et puis aussi... De les rencontrer et nous orienter effectivement vers la maison de la justice. Mmh. Et que nous ne tarderons pas à prendre attache pour demander aussi dans quelle mesure ils peuvent soutenir notre travail et puis aussi aider ces personnes en fait lorsqu'ils ont des problèmes juridiques et à pouvoir s'en sortir puisque ça ne relève pas de notre domaine de compétence.
Ok. Juste au passage, préciser pour nos auditeurs qu'il y a effectivement une maison des droits qui existe maintenant dans le 13e arrondissement, qui est située dans le nouveau quartier PRG, là-bas vers l'avenue Berlier, je crois que ça s'appelle. Donc c'est une petite rue qui est sur le côté, qui est peut-être la rue du passage d'Ivry, enfin je ne sais plus exactement le nom, mais c'est situé en dessous le boulevard des Maréchaux, et donc vous avez là la possibilité d'aller consulter des professionnels, des avocats, des juges, je crois que même des juges qui viennent. Ils font ça bénévolement et donc si vous avez des problèmes juridiques, eh ben, vous pouvez toujours vous pointer là-bas. Alors je ne sais pas si ça fonctionne avec rendez-vous, pas rendez-vous, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais prenez contact avec eux, vous verrez, c'est des gens, c'est leur métier et ils sont là pour vous aider. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais c'est quelque chose qui n'est pas trop connu pour l'instant. Donc c'est bien d'en parler.
Oui, c'est très très bien.
Ok, on revient un peu parce que moi, il y a des choses que je n'arrive pas bien à comprendre. Les gens qui sont à la face de toi, est-ce que c'est aussi des gens qui sont dans les tentes cachoirs, enfin les tentes qu'on voit sur le bord des trottoirs, ou c'est que des gens qui sont dans des appartements? Comment vous avez accès à ces gens-là?
Alors, je vais revenir à cette question.
Oui.
Mais avant, je vais continuer à vous dire tout ce qu'on fait dans les permanences.
D'accord, vas-y,
Oui, dans les permanences aussi, nous aidons, nous apportons une aide à certaines personnes qui cherchent du boulot, pour pouvoir les aider à faire un CV, une lettre de motivation. En fait, nous ne donnons pas du travail aux gens, mais ça facilite en fait la recherche d'emploi. Et puis, nous faisons aussi le suivi de leurs courriers administratifs, parce qu'il y en a, comme je vous dis, qui ont des courriers qui ne savent pas ce que c'est. Donc, du coup, ils nous permettent de regarder sur leur téléphone, de regarder le message, et puis d'y répondre, en fait, afin que ces démarches soient abouties. Et puis, nous les aidons aussi à remplir leur impôt, hein, la déclaration d'impôt. Mmh. Parce que même s'il y en a qui ne travaillent pas, hein, ils ont le droit de déclarer leur impôt à zéro chaque année. Et, donc, et c'est important aussi pour leur parcours, pour leur futur de ces impôts. Et lorsqu'ils iront à la préfecture, pour, comme preuve de présence et de manière régulière. Et puis, ceux qui travaillent aussi, il y en a qui sont à France Travail, et des fois qu'ils sont confrontés à des difficultés ou des fois il y a des erreurs ou on leur demande de rembourser. Donc à ce moment-là, on articule des courriers, on fait des courriers pour eux pour demander une remise gracieuse ou bien pour expliquer l'erreur, etc. Tout, la CAF.
Et ces gens se déplacent à leur demande ou toi tu peux leur dire bah, reviens me voir dans 8 jours, on fera évoluer le dossier, c'est-à-dire que tu as un suivi de ton côté? Ou c'est eux qui viennent et qui viennent quand ils veulent? Alors, comment ça se passe?
En fait, ils appellent l'association parce qu'il y a un téléphone. Et ils viennent aussi des fois en permanence, comme vous dites. Et des fois, en fait, ça dépend de la complexité du dossier. On peut répondre tout de suite ou on peut dire, écoute, on va prendre un rendez-vous. Mmh. Et donc, il y a un cahier de rendez-vous qui est tenu. Et en fonction du temps que ça va mettre pour faire un dossier, par exemple, de séjour, ou bien un dossier qui est très complexe parce qu'il y a beaucoup de documents à scanner, il y a à discuter avec la personne parce que ça ne va pas comme ça en claquant les doigts. Donc il y a un échange dans la rencontre qui s'installe, la confiance et puis des questionnements, bon, pas de manière inquisitoire. mais pour comprendre ce que veut la personne et ce qui est possible de faire aussi. Mmh. Avec, parce que des fois, on veut aller là, mais il n'est pas possible d'aller là pour des raisons bien spécifiques, parce qu'il y a des règles. Donc tout ça aussi, il faut l'expliquer pour que les personnes le comprennent également. Donc on agit aussi sur, comme je vous ai dit tout à l'heure, les réductions de solidité de transport, mmh, en les aidant. Et puis, on fait des conseils aussi, accompagnement, et on suivit diverses procédures administratives sur les courriers, le séjour, afin qu'ils puissent aboutir à un séjour durable en France, parce qu'il y en a des personnes qui demandent des séjours, par exemple, qui reçoivent beaucoup de récépissés. Donc, des fois, il faut aller sur leur compte à neuf ou des démarches simplifiées pour faire un courrier, parce qu'il y a des éléments qui manquaient et qui ne convainc pas forcément le préfet, même si c'est à l'appréciation du préfet, mais pour mieux réarticuler ce dossier et pour qu'ils aient toutes leurs chances d'obtenir leur titre de séjour. Et il y a aussi une aide pour remplir des dossiers de demande d'asile. Et nous, en fait, nous orientons vers l'OFPRA et ils ont un dossier qu'ils retirent et après, nous les aidons en fonction de ce qu'ils disent, hein, nous n'inventons pas leur vie, leur histoire. Et puis, nous les aidons à remplir ce dossier. Et puis...
Juste une précision, l'OFPRA, tu peux préciser ce que c'est, parce que les gens ne connaissent pas.
Alors, c'est l'Office des migrations internationales, en fait, qui est juste dans le 13e. Enfin, il y a d'autres bureaux un peu partout. Et l'OFPRA, où les gens, en fait, qui ont quitté leur pays peuvent faire une demande d'asile ou une demande de protection. Voilà.
Je crois qu'il y a la rue de Pathé.
À la rue de Pathé, oui, voilà. C'est ça, dans le 13e même.
D'accord.
Et donc, ils peuvent demander une protection pour leurs filles, surtout les filles, mmh, et pour que ces filles retournent dans le pays d'accueil. Et que des fois, même si les gens ne veulent pas, les parents ne veulent pas, mais des fois, les grands-parents ont recours à l'excision. Et donc, vont pratiquer l'excision sur les filles. Donc, du coup, ça protège l'enfant. Et comme l'enfant est protégé par l'OFPRA, et donc la mère bénéficie d'une carte de séjour vie privée familiale de 10 ans et s'ensuit après le père. Voilà. Donc, tout ça, en fait, on est avec les gens pour les conseils, pour des aides à notre niveau, si modeste que nous pouvons, pour les aider, les accompagner et être avec eux. Et voilà.
Ok. Il y a d'autres actions que tu veux développer ou on a fait le tour de la liste parce que j'ai vu que tu avais petit. Allez, on leur dit, on dit tout.
On a
fait une petite liste devant les yeux.
Oui, on a fait la liste.
Ok. On va donc revenir à ma question de tout à l'heure. J'arrive pas moi. Je voudrais savoir si la majorité de la population qui vient vous voir, ce sont des gens qui ont déjà des logements, qui ont déjà une vie plus ou moins installés, ou est-ce que c'est des gens qu'on peut trouver dans la rue, que ce soit des familles ou des individuels, qu'on peut trouver sur le trottoir, malheureusement, sous les ponts et ainsi de suite?
Alors, il y en a de tout. Il y a des gens qui dorment dans les abris de bus, il y a des gens qui dorment, par exemple, parce qu'ils ont des copains qu'ils connaissent de leur pays d'origine, qui sont dans un foyer, mais ils vont squatter. Et des fois, ils sont tellement nombreux, il y en a qui dorment dans les cages d'escalier le soir, dans les foyers, parce qu'ils ne peuvent pas être tous dans la petite pièce. Et il y en a aussi des femmes qui viennent et qui disent qu'ils sont à la rue parce qu'en fait, ils ont eu un problème avec leur conjoint et qu'ils sont à la rue. Il peut y avoir un homme aussi, parce qu'on avait le cas d'un homme qui était avec une petite fille de 6 ans qui était scolarisée et qui, avec son sac à dos tout le temps, et c'était avec une dignité folle que quand vous les voyez, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont à la rue. Ils vont chercher des douches à Paris pour se laver et il emmène son enfant à l'école parce qu'en fait, il avait expliqué que la maman, du jour au lendemain, est partie. Mmh. Et souvent, nous avons des trucs très construits dans la tête. On dit que c'est souvent les hommes qui partent. Et bien là, on est tombé sur le cas d'un homme qui était tout seul avec sa fille.
Ils dormaient dans la rue, tous les deux?
Ah oui, ils dormaient dans la rue. Et à un certain moment, il y a une association dans le 14e qui leur donnait la possibilité de loger dans un bureau, de dormir le soir dans un bureau du fond, jusqu'à ce que pendant, je crois, 6 ou 8 mois plus même, ils ont pu avoir un logement de 115 dans le 78. Donc tandis que l'enfant est scolarisé à Paris, partout toutes leurs activités sont sur Paris, mais que faire? rester dans la rue ou aller dans le 78, eh bien aller dans le 78, parce que l'important c'est d'assurer une certaine sécurité pour sa fille.
On dit bien sûr, parce que c'est pas notre vie, mais j'imagine le déplacement psychologique de cet enfant. C'est-à-dire qu'une fois de plus, il a fallu se réhabituer, il a fallu... Donc, ce n'est pas évident. Ceci étant dit, bon, nos enfants aussi déménagent. Donc, à la limite, c'est vrai qu'on peut imaginer que d'aller dans 78, c'est la meilleure des solutions. Mais il faut se mettre à la place des gens qui ont leurs habitudes. Donc, je comprends tout à fait.
Tout à fait. Donc, il y a aussi des personnes qui ont leur logement, qui viennent aussi aux permanences pour des raisons... Parce qu'il y a des démarches qu'ils ne peuvent pas faire seuls. Mmh. Et donc, ils ont besoin d'aide. Ils peuvent venir du quartier, du foyer là-bas que nous avons là tout à côté, dans le 13e. Ils peuvent venir aussi du quartier parce qu'ils ont un logement. Ils peuvent venir du 14e, ils ont un logement. Mais ils ne peuvent pas tout seuls entreprendre leur démarche administrative. D'accord. Donc c'est un peu de tout en fait. Et puis étonnamment, beaucoup de ces personnes travaillent. C'est en fait, même si c'est 4 heures de ménage, même si c'est des gardes d'enfants, même si c'est avec des adultes, des personnes âgées, et en fait, la majeure partie, en fait, ils cherchent en fait à s'en sortir.
Oui, ce que j'allais dire, il y a une volonté de s'en sortir, il y a une volonté de s'intégrer, il y a une volonté, contrairement à ce que beaucoup peuvent dire autour de nous, surtout dans ces périodes électorales.
Tout à fait, voilà. En fait, moi, je pense que quand on vit le quotidien de ces gens, c'est différent que ce que l'on écoute des fois. Mais on écoute aussi des choses bienveillantes aussi. Okay. Heureusement.
Je sais que tu as une permanence à tenir, donc on ne va pas trop tenir pour temps, mais si on devait parler de l'avenir pour ton association en 3-4 minutes, quel est l'avenir de l'association pour toi? Quels sont les axes d'avenir?
Oh, moi, je pense que l'avenir réside dans notre capacité en fait, à pouvoir à rester motivé, hein, l'équipe déjà, à pouvoir rester motivé et aussi à mettre en place des projets qui sont fiables, qui sont pérennes et à convaincre aussi des partenaires et puis les partenaires que nous avons également déjà, pouvoir pas leur montrer comme un défi, mais leur dire que voilà, nous sommes sérieux et que nous travaillons sérieusement avec eux et pour ces personnes. Et cet avenir réside aussi en notre force, peut-être, et notre capacité aussi à espérer.
Ok. Renel, on ne va pas te retenir plus longtemps parce qu'il y a des gens qui t'attendent, je présume. Je voulais juste te dire deux choses. La première, c'est qu'on est au centre Audinet, on est très très content de vous accueillir, de vous donner ce petit coup de main. Donc, c'est réellement quelque chose qui correspond aussi à ce qui se passe dans le centre. Donc, réellement, on est à côté de vous. Et puis, la deuxième chose que je voulais te dire, c'est toute l'admiration que j'ai pour toi, pour l'équipe qui t'entoure, pour les gens qui, comme toi, dans d'autres associations, passent du temps pour aider les gens qui en ont réellement besoin, pour aider les gens qui sont rejetés par un certain monde politique. Et franchement, un grand coup de chapeau. Un grand coup de chapeau et un grand merci.
Eh bien, un grand merci à vous de nous avoir ouvert cette porte. Et j'espère que, aussi qu'il y a d'autres portes qui s'ouvriront.
Bien sûr.
Parce que je crois en l'avenir. Et même si il brille seulement pour ceux qui nous suivront, moi, j'y crois fermement. Et je remercie Daniel aussi, le président de Centre Audinet. Je remercie Paris pour ce qu'elle met en place, la ville de Paris, pour pouvoir aider les personnes qui sont dans le besoin. Ces dispositifs sont très importantes et utile et nécessaire.
Et j'ai cru comprendre que le nouveau maire de Paris avait comme priorité effectivement l'aide aux gens qui en ont besoin, qui sont dans la rue ou qui ont des difficultés. Donc ça faisait partie de son programme. Bon, on sera là pour suivre son programme en même temps.
Eh bien, d'ailleurs. C'est parfait. On attend de voir.
En attendant, moi, je vais lancer une chanson parce que par rapport à ce qu'on vient de dire, j'ai retrouvé dans mes archives une chanson qui correspond un petit peu à tout ce qu'on vient de dire. C'est une chanson qui a été chantée par Maxime Le Forestier ou par sa sœur, Catherine Le Forestier. C'est une chanson qui s'appelle « Allez voir mes voisins » et je pense qu'elle peut tout à fait correspondre à ce qu'on vient de dire. Renel, un très très grand merci et puis on va se croiser dans les couloirs et puis peut-être que tu reviendras d'ici quelques temps pour nous dire un petit peu la façon dont les choses évoluent dans le quartier.
Merci à vous.
À très bientôt. Ciao,
à très
ciao.
Bientôt.
Si vous voulez parler de ces pays lointains où l'on meurt de misère et de faim, des enfants du Biafra et des petits Indiens à deux pas de chez moi. Allez voir mes voisins. Vous ne trouverez pas leur nom dans le bottin. Moussa et Mohamed et Salem. Et vous aurez du mal à trouver le chemin. À deux pas de chez moi. Allez voir mes voisins. La concierge me dit qu'ils ne sont bons à rien, qu'ils n'ont pas les manières de chrétiens, qu'ils respirent notre air et mangent notre pain. À deux pas de chez moi. Allez voir mes voisins. C'est vrai que nos grands-pères étaient des gens de bien, qu'ils avaient les manières de chrétiens. Quand ils ont pris la terre d'Afrique aux Africains, à deux pas de chez moi, allez voir mes voisins. Ils ont fait de ces hommes vos grands-pères et les miens des balayeurs et des fantassins. Car si le pain est cher, leur vie ne coûte rien. À deux pas de chez moi. Allez voir mes voisins. Au concours des misères, leur taudis valent bien. New Delhi, Calcutta ou Harlem. C'est aussi pittoresque, et c'est beaucoup moins loin. À deux pas de chez moi. Allez voir mes voisins. Vous les voyez traîner de Montrouge à Pantin. Pourtant, ils pourraient bien un matin venir vous réveiller, vous qui dormez si bien. À deux pas de chez moi. Allez voir mes voisins. À deux pas de chez toi. Va donc voir tes voisins.
Bien, bah écoutez, de retour dans les studios de Paris FM, comme d'habitude, dans votre émission en direct du 13, je vais vous parler un petit peu de vie locale. Il ne vous a pas échappé que nous sortons d'une période électorale, et donc je voulais vous donner un petit peu les résultats de ce qui s'est passé dans le 13e arrondissement de Paris, et puis vous, ça annoncera un petit peu ma rubrique qui viendra tout à l'heure. En fait, au niveau parisien, dans le 13e arrondissement, le maire du 13e arrondissement, qui s'appelle toujours parce que c'était l'ancien le sortant, Jérôme Coumet a été réélu dès le premier tour, avec 51,52% des voix, ce qui fait 33 872 voix, je crois. Et ça correspond à une ville très importante avec quelqu'un qui serait élu d'une façon au premier tour, comme si c'était Grenoble ou si c'était une ville de Rennes peut-être. Grenoble c'est sûr, Rennes je suis pas sûr, c'est peut-être plus grand. Mais donc ce serait une élection au premier tour d'une ville importante. En deuxième, on a la liste qui était adossée à Madame Dati avec 14,02%. Puis on avait LFI qui était là avec 13,60%. On avait aussi une liste d'extrême droite qui a fait 6,47% et une liste qui était donc la liste de Monsieur Bournazel qui a fait 6,20%. Et en fait, pourquoi je vous liste ces listes en premier? C'est parce qu'ils ont un certain nombre d'élus. Donc la liste de M. Coumet a 35 élus, celle de M. Jean-Baptiste Olivier a 3 élus, celle de M. Christophe Prudhomme a 3 élus, celle de Marion Boutou a 1 élu et celle de Paga Malek a 1 élu. Voilà donc la façon dont se compose le nouveau conseil municipal du 13e. Pour aller jusqu'au bout, parce qu'il n'y a pas de raison, ils ont fait l'effort de se présenter. Il y a eu d'autres personnes qui se sont présentées mais qui n'ont pas eu d'élus. On a une liste d'extrême gauche avec Ariane Anemanionis, pardon, de 2,95%, David Dazieux, 2,43%, Farine Nechadi avec 1,21%, Marielle Saulnier, qui était la liste lutte ouvrière qu'on avait reçue dans les locaux de Montparis FM, qui a 0,87%. Blandine Chauvel, 0,64%, et Loïc Bonhomme, 0,12%. Ces personnes ont eu à peu près entre 1680 votes et 797 à 1600 votes, ce qui n'est pas énorme. Et je voulais rapprocher ça du nombre d'abstentions qu'on a pu avoir dans l'arrondissement, puisque dans l'arrondissement, on a eu 1,57% d'abstention ou de bulletin blanc ou de bulletin nul. Ce qui fait qu'on a eu 42,51% de personnes qui n'ont pas voté. Et je reviendrai sur ce chiffre qui me paraît important dans la chronique que je vais vous développer tout à l'heure. Au niveau parisien, pour l'élection du maire de Paris, pour le 13e arrondissement, Monsieur Emmanuel Grégoire a eu 59,27% des suffrages, Rachida Dati a eu 29,86% des suffrages et Sophia Chikirou a eu 10,86% des suffrages, ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on peut retrouver au niveau parisien, au niveau global parisien, puisque Emmanuel Grégoire au niveau parisien a 50,52%, je vous rappelle que dans le 13e il a 59,27%, Rachida Dati a eu 41,52% dans le 13e, elle a eu 29,86%. Et Sophia Chikirou a eu 7,96% au niveau parisien, c'est-à-dire elle a baissé par rapport au 13e arrondissement où elle a eu 10,86% des voix. Alors ça fait beaucoup de chiffres tout ça, mais c'est important de le savoir. C'est important de savoir un petit peu la façon dont le 13e arrondissement vote par rapport à l'ensemble des arrondissements. Et ce qu'on peut constater quand même au passage, c'est que toute la partie est de Paris vote majoritairement à gauche et toute la partie ouest de Paris vote majoritairement à droite, mais avec des chiffres qui sont assez étonnants, puisque Madame Dati, au niveau parisien, a obtenu des scores plus faibles que les maires d'arrondissement qui se présentaient. On retrouve ça dans pratiquement tous les arrondissements de l'Ouest parisien. C'est-à-dire que la candidature de Madame Dati n'a pas pris, évidemment, au niveau des arrondissements qui ont voté majoritairement à gauche, mais même au niveau des arrondissements qui ont voté à droite, comme le 16e, comme le 17e et même le 15e, oui aussi. On voit que Madame Dati n'a pas fait le plein des voix qu'elle pouvait espérer. Et on voit qu'il y a un report de voix qui s'est fait de la liste de Bournazel vers les listes de gauche. On voit que les gens qui ont voté LFI ont eu un réflexe que je vais appeler moi réflexe républicain en votant pour Emmanuel Grégoire pour être sûr que Madame Dati ne passerait pas. Et je pense qu'on peut en tirer des conséquences. Alors les gens commencent à en tirer des conséquences au niveau des élections présidentielles. Moi, j'en suis pas là. Moi, je vois plutôt ce qui peut se passer au niveau des législatives. Je me demande comment cet électorat qui a quand même affirmé un certain nombre de choses au niveau parisien va se retrouver au niveau des législatives. Alors vous aimez dire législatives, c'est loin. Bah, pas tant que ça. Réfléchissez bien, pas tant que ça. On va avoir un changement de président en 2027. Il y a aussi des sénatoriales, mais là on est beaucoup moins concerné au niveau du vote direct. Mais les législatives vont suivre et peut-être que les partis politiques devraient regarder ça de plus près et se poser un certain nombre de questions sur les circonscriptions, notamment les deux circonscriptions du 13e qui sont détenues actuellement d'un côté par quelqu'un des Verts et puis de l'autre côté par quelqu'un de LFI. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau de la vie locale, une vie très très riche ces derniers temps et avec, je pense, des enseignements à tirer. Mais moi je vois ça de mon côté, au niveau de mon petit micro, je suis rien du tout, je suis un habitant comme un autre, mais un habitant qui se passionne pour la politique. Je vais vous donner deux, trois petites infos concernant les spectacles. Et puis après ça, on aura la chronique et le disque choisi par Monsieur Théo, qui n'est pas là dans le studio. Et puis je viendrai après ça sur la suite de notre émission. Alors, je vais donc chercher. Voilà, je suis en train de tout casser. Je fais ça en direct. Je pense que notre ingé son n'a pas eu d'être content de ce qu'il vient d'entendre. Exposition Jeff Aérosol Interstice jusqu'au 18 avril à la galerie Madgot, 1 rue Alphonse Boudard. Pour la première fois, Jeff Aérosol réunit ses deux passions artistiques en une seule et même création. Pendant qu'il réalisait ses toiles inédites dans son atelier, l'artiste composait, écrivait et enregistrait parallèlement un album de 14 chansons qui est sorti le 12 mars, jour du vernissage. Jeff Aérosol livre ici sa création la plus intime, celle d'un artiste qui après avoir frôlé l'essentiel, décide de ne plus rien cacher de ses vibrations intérieures. Alors cette galerie, elle est située pas très loin de chez moi, j'ai été voir et vous verrez qu'effectivement il y a des tableaux qui sont exposés, mais il y a des guitares, il y a des objets très personnels et je vous invite à aller dans son univers. Alors un univers qui n'est pas tout à fait le mien, il faut le dire, il n'y a pas de raison, mais qui est passionnant. Moi, j'ai vu ça et c'est vrai qu'on se laisse embarquer dans son univers. Il faut avoir l'esprit ouvert et voir un petit peu tout ce qui habite ce monsieur et ce n'est pas du tout inintéressant. Vous avez aussi des contes créoles en musique. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'en parle tout de suite, mercredi 25 mars à 15h, dans la Maison de la vie associative et des citoyennes, qui est la nouvelle maison de la MVA, qui est 31 rue Bobillot. Vous y allez avec vos enfants à partir de 6 ans. Il y a le conteur Hugo de la compagnie d'Ife et Caco qui vous propose de découvrir la culture martiniquaise au travers d'une lecture de contes créoles en musique pour les enfants et leurs parents. C'est gratuit et il faut juste préciser l'âge des enfants en arrivant pour que on puisse s'adapter à ce qu'attendent vos enfants. On va tout de suite enchaîner avec Monsieur Théo. Monsieur Théo qui nous a fait une rubrique et je crois, Théo, que tu vas nous parler des Oscars, si je me souviens bien.
Bonjour Claude, alors on va encore une fois remonter un tout petit peu en arrière. Nous allons faire ensemble un résumé de la cérémonie des Oscars de cette année. Alors les grands gagnants de cette 98e cérémonie des Césars sont sans conteste une bataille après l'autre qui remporte 6 statuettes et 6 nurses de l'autre côté avec 4 récompenses. Jessie Buckley est devenue la première Irlandaise à remporter l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le drame historique Hamnet. Chez les hommes, c'est Michael B. Jordan qui remporte le prix du meilleur acteur pour son rôle dans Sinners. Donc comme je viens de le dire, c'est tout de même une bataille après l'autre qui amasse le plus d'Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, meilleur second rôle, meilleur casting et enfin meilleur montage. Sinners, comme dit auparavant, n'est pas en reste avec ses 4 récompenses. Meilleur acteur donc, meilleur scénario original, meilleure photographie et bande originale. Surprise et déception pour Timothée Chalamet, pourtant annoncé favori pour la course au titre dans l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Marty Suprême. Malheureusement pour lui, le film repart totalement bredouille de la cérémonie. Une autre surprise, les trois prix remportés par Frankenstein, qui a séduit notamment pour ses visuels. Le film a remporté les prix des meilleurs maquillages et coiffures, meilleurs costumes et meilleurs décors. La meilleure animation est décernée quant à elle au phénomène mondial K-pop Demon Hunter, tandis que Valeur Sentimentale a remporté l'Oscar du meilleur film étranger, un film norvégien, pour la petite anecdote. Voilà pour moi. Alors, rapidement, j'ai choisi pour mon titre aujourd'hui Dream On du groupe Aerosmith. Alors, très rapidement, j'aime beaucoup ce titre car il monte entre guillemets graduellement jusqu'à un point culminant absolument culte et connu de tous. Et je sais pas, j'aime beaucoup écouter ce morceau, notamment dans les transports par exemple, quelque chose comme ça. Donc, je vous propose qu'on l'écoute tous ensemble.
Yeah. c'est maintenant, c'est la rubrique de Claude.
Aujourd'hui, je vais vous parler de l'abstention. Pas comme un chiffre, pas comme une statistique, mais comme un cri. Un cri silencieux, mais un cri quand même. Parce que oui, quand un électeur sur deux reste chez lui, ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est un message fort, un message sec. Un message qui dit « on ne nous écoute plus ». Et ce message, il vient d'où ? Il vient des quartiers où les loyers explosent, des familles qui jonglent avec trois boulons, des hommes et des femmes de notre arrondissement qui voient le contenu de leur caddie diminuer pour le même prix à la caisse automatique, des jeunes qui enchaînent des stages non payés, des retraités qui comptent les centimes. Il vient de celles et ceux qui ont l'impression que la politique, c'est un spectacle qui se joue très loin de leur quotidien. Les alliances, les directives de vote, ils s'en foutent complètement. Ils veulent vivre, surtout vivre mieux. Ce message, il vient aussi de la lassitude, parce qu'à force de promesses non tenues, de débats qui tournent en rond, de petites phrases qui remplacent les grandes idées, on finit par décrocher. Beaucoup nous disent « à quoi bon ? On ne nous écoute pas ». Dans les cafés du 13e, sur les marchés, dans les halls d'immeubles, on entend même la petite musique « ils promettent, ils oublient ». Et puis il y a la fatigue, fatigue sociale. Fatigue économique, fatigue démocratique. Quand on jongle entre deux boulots, quand on jongle avec les transports, avec les enfants, le loyer qui grimpe, le bulletin de vote passe parfois après le reste. Et puis il y a les jeunes. Eux, ils ne sont pas indifférents, loin de là. Ils sont engagés. On peut ici en témoigner. Mais ils sont engagés autrement. Association, écologie, solidarité, action locale. Le vote, pour beaucoup, c'est juste un outil parmi d'autres. Parfois jugé trop lent, trop flou. Trop loin de leur réalité. N'oublions pas non plus le mal des quartiers populaires qui est lié aux nombreux déménagements qui ne sont pas suivis automatiquement d'une inscription automatique sur les listes électorales du nouveau domicile, comme c'est le cas par contre pour l'inscription sur la base des impôts. C'est quand même 25% des abstentions dans ces quartiers. Pour ce qui est du dernier scrutin, le changement des règles électorales du maire a été un facteur supplémentaire pour embrouiller les électeurs. D'ailleurs, on retrouve le même problème dans les petites communes, ce qui favorise les listes uniques et non la participation des électeurs. Cette défiance, elle concerne aussi les médias qui favorisent une fragmentation de l'opinion, qui donne la part belle aux infos, souvent partisanes et non vérifiées. Mais attention, s'abstenir, ce n'est pas disparaître. C'est un grand silence qui fait énormément de bruit. C'est une autre façon de s'exprimer. C'est dire « je ne crois plus en votre système, trouvez-moi une autre façon de participer ». Et ça, c'est un défi énorme, pour les élus, pour les institutions, mais aussi pour nous les médias locaux, les associations, les voisins, les commerçants. Parce que la démocratie, ce n'est pas un bouton qu'on appuie tous les 5 ans. C'est un muscle, et en ce moment, le muscle, il est atrophié. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On arrête de culpabiliser les abstentionnistes. On arrête de leur dire « il fallait voter ». On commence par les écouter, par comprendre ce qui coince, ce qui blesse, ce qui manque. On recrée du lien. On remet de la politique là où elle a disparu, dans les halls d'immeubles, dans les cafés, dans les parcs, dans les associations. On redonne envie de participer, pas par obligation, mais par conviction. On redonne la parole aux habitants, aux usagers, en organisant avec eux des groupes de réflexion sur leur quartier, leurs écoles, leurs transports. Mesdames et messieurs les nouveaux élus, vous avez du pain sur la planche. C'est à vous que revient le bon rôle de maintenir le lien avec la population. C'est à vous de sauver notre démocratie. C'est à vous de nous redonner envie, envie d'avoir envie de participer.
On me donne l'obscurité, puis la lumière. On me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire, je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir.
l'amour. La solitude aussi, pour que j'aime les gens. Pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent. Pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. Qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour. On me donne le jour pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié les bébés, les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi. On me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ta vie.
Ta parentalité, l'émission qui met en lumière les différentes facettes de la parentalité et permet aux parents de se connecter et de s'inspirer les uns les autres. Une émission présentée par Aminata Ndiaye, tous les vendredis entre 21h et 22h.
Nous voilà de retour dans les studios de Mon Paris FM et là je vais de nouveau vous donner des informations concernant les spectacles, les expositions de notre arrondissement. Il y a déjà une exposition qui est prévue du 31 mars au 15 avril dans les galeries de la mairie du 13e arrondissement avec un vernissage qui est prévu le jeudi 2 avril à 18h30. En fait, l'Association des artistes de la glacière est composée d'élèves ou d'anciens élèves des ateliers des beaux-arts de la ville de Paris. Ils vous proposent de découvrir l'exposition Pas comme les autres, qui représente le travail de 45 artistes de l'association dans le domaine de la peinture, de la sculpture et de la vidéo. Au programme, tout d'abord, ouverture et échange avec les arts animés par des performances de l'ensemble Orage autour des œuvres exposées à partir du jeudi 2 avril à 17h. Puis il y aura un spectacle de danse avec la compagnie Je, Elle et Lui et ses partenaires. Et ça aura lieu le vendredi 10 avril à 18h30. On aura l'occasion de revenir sur cette exposition. Je voulais aussi un petit peu de zen, parce qu'on a quand même abordé des sujets un petit peu compliqués aujourd'hui. Donc il y a une soirée zen à la piscine Dunois, le samedi 28 mars, c'est-à-dire ce samedi qui arrive, de 18h à 22h au 70 rue Dunois. En fait, dans cette piscine, vous pourrez faire du pilates, de l'étirement, de l'aquarelax, vous aurez une tisanerie et bien d'autres moments de détente avec une ambiance apaisante autour d'une eau à, écoutez bien, 32 degrés. Alors là, je vais y aller, je peux vous dire, je vais y aller. C'est un moment unique pour relâcher les tensions, respirer et retrouver votre énergie dans un cadre convivial et relaxant. L'activité est gratuite. Simplement, il faut quand même payer son entrée à la piscine comme d'habitude. Mais comme on a tous des abonnements et que les seniors payent 50%, n'hésitez pas, vous pouvez aller à la piscine du Dunois. N'oubliez pas votre bonnet de bain qui est obligatoire. Et tout ça, c'est réservé aux 16 ans et plus. Je parle des activités et pas de la piscine. Le Repère Café. Vous savez, à chaque fois que je vous parle du Repère Café, là, il y a un Repère Café spécial enfants et famille. le samedi 28 mars de 14h à 17h30 à la Maison de la Vie Associative et des Citoyens qui est maintenant située donc au 31 rue Bobillot. Vous avez à la maison des vêtements troués, des objets abîmés. Au lieu de les jeter, venez apprendre à les réparer gratuitement avec les bénévoles du Repère Café dans une ambiance conviviale et familiale. L'occasion d'apprendre dès le plus jeune âge, je vais arriver à le dire, à souder, à démonter ou coudre. Si franchement j'avais su faire ça, moi il y a plein de choses que je pourrais réparer à la maison, mais simplement j'ai deux mains gauches, j'y arrive pas, donc je vais aller voir comment on peut faire. L'entrée est libre et gratuite. Il y a une soirée printemps des poètes à la librairie Les Oiseaux Rares. Ça c'est le vendredi 27 mars à 19h30 au 1 rue Vulpian. Vous êtes invité à lire vos textes de poésie ou poétique ou à ouvrir une malle au trésor et à lire un extrait d'un livre choisi au hasard. Ça, c'est un franc succès. Vous ouvrez, vous tombez sur un texte et puis vous commencez à le lire. Bon, si ce texte vous plaît pas trop, vous dites stop, j'en choisis un autre. Ils vous diront rien, vous pourrez en choisir un autre. C'est une lecture partagée suivie d'échanges proposés par Cécile Lussuel avec l'association Neige en août. Voilà, on va donc arrêter là pour aujourd'hui pour les spectacles concernant le 13e arrondissement. On va se détendre en lançant des musiques qui ont été sélectionnées par Jason, là-bas, qui est aux manettes. Jason, quand tu veux, tu nous envoies les musiques que tu aimes.
Allons derrière lui, il nous a promis de changer notre vie. Dans les hôpitaux, il aura médicaments cadeaux. Notre sécurité sera toujours garantie.
Aïka Mire,
président,
Aïka
toi mon président.
Aïka
Mire, président, Aïka Mire, président.
Aïka Mire,
au pouvoir. Va nous excuser, mais un soukouba est mieux que toi.
Aïka Mire,
président,
Aïka
toi mon président.
Aïka Mire,
qui m'a émis, Aïka Mire, président.
Aïka Mire,
on t'attend. Quand le match a commencé, tu étais dans les tribunes. Tu as crié tellement fort. Y a des maladies au pays qu'on n'arrive pas à soigner. Les caisses guérison vite. Tu vas au marché, on te dit le riz augmenté. Guérison ces maladies là, va me parler du sida. Sinon on aura faim jusqu'à la fin.
Aïga mire, aïga mire, aïga mire.
Au nom de Paris, oh, aïga mire, président.
Aïga mire,
veux que tu l'inga, aïga mire, président.
Aïga mire,
c'est ma foi.
Bien, c'était Petit Yod et l'enfant, Sivo avec Président. Alors franchement, il n'y a que sur Mon Paris FM que vous pouvez dans une seule et même émission entendre une vieille chanson de Maxime Le Forestier, un chant d'Haïti, avoir Aerosmith, avoir Johnny Hallyday avec L'envie d'avoir envie et d'avoir Petit Yod et l'enfant qui nous chante une chanson. Alors mais franchement, j'ai écouté les paroles, on était pliés en deux avec Jésôme. Moi, je ne connaissais pas du tout. Lui, il connaît depuis peu de temps apparemment et c'est entraînant. Mais je vous invite à, rien que pour ça, aller télécharger l'émission et écouter les paroles. Franchement, c'est étonnant. Moi, j'ai beaucoup aimé et je pense que je vais la réécouter plusieurs fois. Écoutez, on arrive au bout de cette émission. C'était encore une émission très riche, je trouve. On se retrouve dans 8 jours. Je recevrai un docteur et une infirmière qui travaillent au centre Edison, qui est un centre médical de Paris 13e. J'espère que cette émission vous a plu, comme elle nous a plu. J'espère que vous allez continuer à nous écouter très nombreux parce que vous êtes de plus en plus nombreux non seulement à nous écouter en direct, mais à charger les podcasts. Je vous fais une grosse bise, il n'y a pas de raison. Moi qui ne fais jamais de bise, je vous fais une grosse bise. Et je vous dis à dans 8 jours. Ciao, ciao, salut Jason.